إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous. Nous sommes le
2 Ramadan, le deuxième jour du Ramadan 1430. Bi'idnillah, ce qui correspond au 23-8, au 23-8-2009, bi'idnillah azzawaj. Naam. Donc je commence Allah Ta'ala par une des fatwas du Cheikh Al-Rahmatullah. Il a dit, je lis d'abord en arabe, ensuite je traduis Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, il a mat al-insanu athna'a ramadana, فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فلا يقضى عنه. نعم. Donc c'est le livre qui s'appelle Ahkam al-Siyam. C'est cette fatwa, c'est dans la page 387. Il dit que lorsqu'une personne blesse, si une personne meurt pendant le ramadan, son tuteur n'est pas obligé s'il meurt, si cette personne meurt, supposons à midi, son tuteur n'est pas obligé de continuer à jeûner à sa place. C'est-à-dire, il va dire il est mort, par exemple, à midi, donc de midi jusqu'au coucher du soleil, je vais continuer à sa place. Et il n'est pas aussi obligé de quoi? De jeûner, yani des jours qui n'a pas encore jeûné. Par exemple, s'il est mort, supposons le 10e jour. Il ne va pas dire donc, mon père ou là, mon oncle là, qui vient de mourir, il lui reste 20 jours, il ne les a pas jeûnés. Donc je vais jeûner à sa place les 20 jours qu'il n'a pas jeûné. Il a dit ça, ça ne se fait pas. Ni le fait de mourir à sa place. On ne peut pas dire, puisqu'il est mort, il n'a jeûné que 10 jours, donc je vais mourir 20 pauvres pour les 20 jours qu'il n'a pas jeûné. Il a dit ça, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal a écrit à cette personne qu'elle doit mourir quel jour? Elle doit mourir le 10e jour du Ramadan. Donc Allah Ta'ala a voulu que cette personne ne jeûne pas tout le mois. Donc c'est pas possible de jeûner à sa place, ni de nourrir à sa place. Pourquoi on dit cela? Parce que certaines personnes, ou bien beaucoup, croient que si une personne meurt pendant le ramadan, on doit, yani le tuteur doit, continuer à jeûner les autres jours à sa place. Ou alors, à nourrir des pauvres à sa place. Oui. Ensuite, il a dit dans une autre fatwa, non, il a dit, من كل شهر الأفضل أن تكون في أيام البيض، لكن إذا صام في سائر الأيام الأخرى فهو جائز. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي صام في أول الشهر أو وسطه أو آخره. أو مسلم. Donc ici le Cheikh عليه رحمة الله dit que pour les trois jours qu'il est conseillé de jeûner. Vous savez que dans la sunna, il est conseillé de jeûner 3 jours pendant chaque mois. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand on jeûne un jour, fils Abidvin, Allah Ta'ala va t'écrire 10 jours. Donc si tu jeûnes 3 jours, il va t'écrire 30 jours. Et 30 jours, c'est un mois. Donc si une personne pouvait jeûner 3 jours chaque mois, ça veut dire si comme elle jeûnait yani tout le mois. Donc, c'est comme si elle jeûnait toute l'année. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit pour les trois jours où il est conseillé de jeûner, il a dit le mieux, c'est que ça soit pendant que la lune soit pleine. C'est dans les mois arabes, le 13, 14, 15. Il a dit, ça, c'est la meilleure des choses. Mais si il ne jeûne pas le 13, 14, 15, et jeûne n'importe quel 3 jours du mois, il a dit, ça se fait aussi. C'est possible. Pourquoi? Car Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a dit que le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi sallam, jeûnait 3 jours de chaque mois, et que ça ne lui importait pas, ça n'avait pas d'importance pour lui, que ça soit au début du mois, au milieu du mois, ou bien à la fin du mois. Donc ça, c'est très important de le savoir. Il a dit sa page dans la page 401. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que, si on ne peut pas jeûner 13, 14, 15, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel, c'est de jeûner, si on pouvait, 3 jours de chaque mois. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé que ce soit 13, 14, 15. Quoique, 13, 14, 15, ce sont les meilleurs jours. Mais s'il y a des choses qui m'empêchent, ou le fainéantisme, ou bien je ne sais pas quoi, al-muhim, je peux jeûner au début, au milieu et à la fin. Il a dit dans une autre fatwa, Ada ou Deini Ramadana, Mukaddamun ala Siyami, Sitati Ayami min Shawwal. Bil hadith, Men Sama Ramadana, Tuma Atbao, Bi Siti min Shawwal, il a khiri. Il a dit, Ulladi Ali Kaza un min Ramadan, Yukadu anhu, Sama Bada Ramadan, Walisa Sama Ramadan. Page 408. Le Sheikh Ali Rahmatullah dit, si quelqu'un a des dettes de jeûne, qui n'a pas jeûné, quelques jours, qui n'a pas jeûné, pendant le ramadan, il a dit, le fait de rattraper ses dettes doit devancer et précéder le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal. Vous savez qu'il est de la sunna, quand le mois de ramadan se termine, d'attendre un jour qui est l'Aïd, ensuite de commencer, si on veut, à jeûner les six jours de Shawwal. Et c'est six jours. Le Cheikh Al-Rahmatullah dit, celui qui a des dettes, il commence par ses dettes. Il ne commence pas à jeûner les 6 jours de Shawwal alors qu'il a des dettes, alors qu'il était malade et qu'il n'a pas jeûné. Alors que la femme était malade pendant sa semaine et n'a pas jeûné. Elle ne peut pas commencer par les jours de Shawwal. Pourquoi? Parce que le hadith est clair. Qu'a dit le hadith? Il a dit quiconque jeûne ensuite le fait suivre de 6 jours de Shawwal, il aura telle et telle récompense. Qu'a dit le hadith? Celui qui jeûne le ramadan. Or, celui qui a encore des dettes, on ne peut pas dire de lui il a jeûné le ramadan. Mais on va dire de lui il a jeûné un peu du ramadan. Un peu. Ou bien la moitié, ou bien les trois quarts, mais il n'a pas jeûné le ramadan. Le hadith dit, celui qui a jeûné son ramadan, et le suit de 6 jours de Shawwal. Mais celui qui a des dettes, on ne peut pas dire de lui, il a jeûné sans ramadan. Il a jeûné la moitié, de un quart, les deux quarts, les trois quarts, mais il n'a pas jeûné son ramadan. C'est pour ça, il doit commencer par rattraper ses dettes, ensuite il va passer à quoi? Au 6 jours de Shawwal bi'illa azza wa jalla. Ensuite le Cheikh dit, page 410, il a dit, فلو فرض ان قضاء رمضان استوعب جميع شهر شوال فيصوم 6 ايام من ذي القعده بنيه قضاء 6 من شوال لان تاخيره كان عن عذر للضروره. Ici Cheikh Rahmou dit quelque chose, que pour dire la vérité, je n'ai jamais lu dans un autre livre. C'est pour ça que ce qui est un peu étonnant, c'est que dans un autre endroit, d'un autre livre, Yani, il n'a pas permis ça. Il n'a pas permis ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, si on suppose, non, je ne jamais chercher, ouais, on suppose que quelqu'un a des dettes par exemple de 30 jours. Il n'a pas jeûné tout le ramadan. Il était malade. Et maintenant, alhamdoulilah, il est guéri. Et il va commencer à rattraper ses dettes pendant Shawwal. Et que, pour rattraper ses dettes, il va jeûner tout Shawwal. Tout Shawwal, il va le jeûner comme rattrapage, pas comme sunna. Il a dit maintenant, comment qu'il va faire pour jeûner les 6 jours de Shawwal? Il ne peut pas. Il a dit, dans ce cas, il peut jeûner 6 jours de l'autre mois qui vient après Shawwal. Il s'appelle Dhul-Qa'dah. Il jeûne 6 mois de l'autre mois. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que cette personne a des excuses. A des excuses. Elle voulait jeûner pendant Shawwal, mais la râle. Non, pendant Shawwal, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle doit rattraper ses dettes. Et ses dettes, c'est tout le mois. Tout le mois de Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ou bien elle jeûne pas du tout, ou bien elle jeûne 6 mois de l'autre mois. Cheikh Lahmoud dit, elle jeûne 6 mois de l'autre mois qui s'appelle Dhul-Qa'dah. Ici. Il y en a une page 410, il a dit ça. Entre parenthèses, j'ai noté que, alors que, je crois dans le même livre ou bien dans un autre. J'ai oublié où. Il n'a pas permis cette chose. Il a dit, celui qui n'a pas pu jeûner, Naam, les 6 jours de Shawwal, pour des raisons ou pour d'autres, il a dit, celui-là, c'est pas la peine qu'il jeûne un autre mois. Il a dit, Allah Azza wa Jalla va lui donner d'après l'intention. Naam. Yadhhab al-Shaykh ila istihbab sawm al-tas'a ma'a al-'ashir 'ashura aw al-'ashir wal 11. Al-muhim مخالفة أهل الكتاب والأفضل صيام الأيام الثلاثة حتى يحصل على أجر صيام ثلاث أيام من كل شهر. Page 431, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, le meilleur pour celui qui jeûne, non, c'est de jeûner le 9e jour et le 10e en ce qui concerne Ashura. Ashura, c'est le 10e jour. Il a dit, mais le mieux, c'est de jeûner le 9e jour et le 10e. D'ailleurs, vous connaissez le hadith qui dit, si jamais je vis pour l'an prochain, je vais jeûner le 9e jour aussi. Ici, il a dit, Cheikh Lahmoud, ou bien, c'est-à-dire, s'il ne jeûne pas le 9e et le 10e, alors il jeûne le 10e et le 11e. Le 10e et le 11e. Al-Muhim, il a dit comme ça, Al-Muhim, l'essentiel, Mukhalafatu Ahli Kitab, c'est de ne pas se faire ressembler aux gens du livre. Les gens du livre, qui croient, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent le 10e, surtout les juifs. Ils jeûnent le 10e jour. Il a dit, donc si quelqu'un ne peut pas jeûner le 9e avec le 10e, alors qu'il jeûne le 11e avec le 10e. Il a dit, Al-Afdal, et malgré cela, le meilleur de tout, c'est quoi? C'est de jeûner 3 jours. D'après lui, 9, 10, 11. Il a dit comme ça, il a jeûné 3 jours du mois. Naam, composé le messager d'Allah dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure de Aïcha qui a dit que le messager d'Allah peut lui importer, naam, quel jour il allait jeûner, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Al-Muhim, il jeûnait 3 jours de chaque mois. Hadith rapporté par Muslim. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmoud, d'après lui, il dit, on doit jeûner ou bien 9-10, c'est pas on doit, yani, c'est sunnah, ou bien 9-10, ou bien 10-11, ou bien 9-10-11. Comme ça, yani, on aura jeûné les 3 jours d'après le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Non. Je vous fais autre chose, inshallah ta'ala. Cheikh Lahmoud dit, page 445, il dit, le hadith qui est interdit, qui nous interdit de jeûner le vendredi, pour la nafila, vous savez que, il y a un hadith qui nous interdit de jeûner le vendredi seul. C'est-à-dire jeudi, vendredi ou bien vendredi, samedi. Pas vendredi seul. Il a dit, ce n'est pas seulement pour la nafila. Il a dit, même si c'est pour le fard. Supposons qu'une personne avait un jour de dette. Un jour de dette qu'elle a mangé pendant le ramadan parce qu'elle était malade. D'après Cheikh Rahmou, cette personne ne peut pas rattraper. Elle va dire, vendredi prochain, je vais rattraper mon jour de dette. Elle ne peut pas. Non, il a dit, ce n'est pas seulement pour la nefila. C'est aussi pour le siyam obligatoire. Il ne peut pas jeûner yani un vendredi, sauf s'il y a un jour avant ou il y a un jour après. Non. Autre chose, inshallah ta'ala. وجه الشيخ في الشهر القضاء طيب إلى دي المسافر نعم أبو مروان تفضل سي سي السامدي سي جور د العيد سي سي السامدي سي جور د العيد est-ce qu'on peut faire un vendredi et ce samedi là on ne peut jamais jeûner un jour de l'Aïd. Non, on ne peut jamais jeûner un jour de l'Aïd. Dans le cas où tu viens de citer, alors il va jeûner jeudi et vendredi. Il va jeûner jeudi et vendredi. Ensuite, Cheikh Lahmoud dit, « El musafiru ida qadima ila baladihi wa huwa muftar lam yelzimhu l'imsaku dhalik al-yom. » Thumma zakara dhalik al-imam min al-tabi'in wa huwa abu al-sha'sa رضي الله تعالى عنه الذي وجد امرأته طاهرا بعد عوده من سفر فجمعها لأنها طهرت في أثناء اليوم. نعم le Cheikh Allah nous dit ici, il dit si quelqu'un est en voyage, il vient maintenant de revenir vers son pays. Vous savez que le voyageur lui est permis de manger. Et supposons que cette personne parce qu'elle a mangé. Elle a pris l'avion et elle a mangé dans l'avion et maintenant elle est arrivée dans son pays, bien sûr, et on est toujours pendant quoi? Bon, il a dit, cette personne, quand elle arrive chez elle, elle n'est pas obligée de jeûner. Elle n'est pas obligée de jeûner, je veux dire, de jeûner ce jour-là. Car ce jour-là, elle a déjà mangé avant de prendre l'avion, ou bien elle a mangé dans l'avion. Donc cette personne a rompu yani le siyam de ce jour-là, n'a pas jeûné. Il a dit donc quand elle arrive à elle, ce n'est pas la peine, comme font certains gens, ils vont dire, maintenant par exemple il arrive chez lui à 15h, il va dire à partir de 15h, khlas, je suis arrivé, je commence à jeûner. On lui dit khlas, tu as mangé, tu as des excuses, maintenant tu continues à manger et puisque, inshallah ta'ala, tu vas rattraper une autre fois. Et il a cité qui? Il a cité l'un des tabi'in, radiallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Abu Sha'fa, radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, il est revenu d'un voyage, et il avait trouvé sa femme, qui venait de se purifier de ses menstrues, et il a dit, il a fait avec elle ce que fait le mari avec sa femme, et il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il a mangé, il n'est pas obligé qu'il jeûne. Donc, il a continué à ne pas faire le jeûne. Et elle, bien quoi, elle a accepté de faire cette chose avec lui, parce que, d'après, comme vous savez, d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin Ibn Malik, rahimahullah, que la femme, si elle se purifie pendant la journée, que, yani, elle continue à manger. Car, pour qu'elle puisse jeûner, il faudrait qu'elle se purifie avant le Fajr, pas après, pas 7h, 8h, 10h du matin. Il a dit, puisque celui-là a trouvé que sa femme venait juste se purifier quand il est arrivé, donc il a fait cette chose. Non. Ensuite, le Cheikh dit, page 37, il a dit, « La yajouz ustiamalu l'hisabi wala l'i'timadu alayhi fi tahdid al-ru'ya. » Il a dit, il est de l'avis de ceux qui disent que il n'est pas permis de se baser sur les calculs astrologiques pour décider que demain on doit jeûner ou le demain c'est l'Aïd. Parce qu'il y a une divergence, est-ce qu'on peut se baser sur les calculs astronomiques ou est-ce qu'on ne peut pas. Cheikh Ibn Uthaymin Al-Rahmo est de l'avis que on ne se base pas sur les calculs. On doit se baser seulement sur le fait de voir la lune, l'âme, c'est tout. Ou alors, si on ne voit pas, on fait comme dans le hadith, on va jeûner 30 jours, non, 30 jours de Sha'ban, et ensuite on commence Ramadan. Non. Ensuite, Cheikh Lah nous l'a dit, mais le sunnati, non. Une seconde, Inch'Allah, je vais ouvrir la porte et je reviens. Peut-être est-ce quelqu'un, je sais pas qui, peut-être lui, il va me dire, on s'est basé sur la Holy Calcul, demain c'est l'Aïd. Ça me fera plaisir, sinon je vais voir. Hein. Salam alaikum. T'as vu? Ok, je disais. Non. Cheikh Lah nous dit, il est de la sunna de dire, quand on voit la lune, de dire Allahu Akbar. Allahumma a'inni 'alayna bil-humni wal-imani wa-salama wa-salamati wal-islam. Ce hadith, naam, Hassan al-Albani, Cheikh al-Albani rahmouh a dit, c'est un hadith bon. C'est-à-dire que il est de la sunna, quand on voit la lune, que c'est donné par exemple le ramadan, qu'est-ce qu'on dit? Allahu Akbar. Allahumma ahillu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Il a dit wadhahiru anna hadha khassun bihabi man yukhbaranu. Il a dit, et d'après moi, le cheikh dit, Allah, il dit d'après moi, wadhahir, c'est-à-dire la parole du hadith, c'est que celui qui doit dire, qui va dire, yani la doua que je viens de citer, ce n'est pas la personne à qui on va dire on vient de voir la lune, mais seulement la personne qui elle-même a vu la lune de ses propres yeux. Vous avez compris? Donc le hadith où on dit Allahu Akbar, Allahumma ahillu alayna bil yumni wal iman wa salamati wal islam, c'est quand on voit, on la voit de nos propres yeux. Et ce n'est pas quand quelqu'un vient nous dire que on a vu la lune. Non. Il a dit, Al-Rajih, la vie le plus juste, أن يصوم الواحد مع أهل البلد الذي هو فيه. وكذلك بالنسبة ليوم عرفة. Il a dit, la vie le plus juste, c'est que la personne, ou chaque personne, doit jeûner avec les gens de son pays, le pays où il est lui. Il a dit, et la même chose pour Arafat. Non, Arafat, c'est le jour où les gens de ton pays disent que aujourd'hui c'est Arafat, c'est pas les gens d'un autre pays. Et quand vous remarquez, alhamdoulilah, que cette année, Allah Azza wa Jal a'lam, que yani, la plupart des pays ont jeûné yani, hier. Parfois, on jeûne aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui ou hier, on jeûne samedi. Parce que maintenant, il est 1h du matin, donc c'est le deuxième jour. Donc, alhamdoulilah, pour une fois, je crois, yani, depuis des années, que tous les pays arabes, sauf la Libye, ont jeûné tous, dans quoi non, le même jour qui est le samedi, bi'idhnillahi azza wa jal. Je vais terminer en citant une ou deux choses. Il a dit, فإنه قال إن شاء الله تعالى السكيرس جبليس إن شاء الله تعالى pour le prochain درس بإذن الله عز وجل جبليس إن شاء الله تعالى pour le prochain درس بإذن الله عز وجل نعم تفضل إن شاء الله جولس الميكرو pour les questions.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلسون إن شاء الله. Mais chef Ekoum, chef, on a entendu que vous toussiez, Allah wa alam, vous êtes malade. Qu'Allah azawajal vous guérisse. Par contre, chef, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui enregistre. Il y a un frère qui a commencé l'enregistrement, il me demande s'il enregistre également les questions-réponses, et je lui ai dit naam. d'enregistrer. Donc la première question, c'est la question de Abu Ismaïl. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je voulais savoir quel est l'avis sur le fait d'avoir répudié sa femme alors que cette personne se trouve malade, siah, et djinn. Qu'Allah Azza wa Jal le guérisse. Amin. Est-ce que le fait de l'avoir répudié, est-ce que le fait de l'avoir répudié compte ou il n'est pas compté vu que la personne ne se trouve pas dans son état normal? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal, Cheikh.
Je viens de remarquer une chose, c'est pour ça que je vais te demander de reposer la question, car je pense à autre chose. Je viens de remarquer que le salon que je viens d'ouvrir, ce n'est pas mon salon. Mon salon, c'est apprendre l'islam. Je lis, c'est écrit « J'apprends l'islam sur le vrai minhaj ». Ce salon, vous remarquez, je viens de l'ouvrir comme honneur, moi-même, Mohamed Chalabi, alors que l'autre apprendre l'islam, je l'ouvre avec Ibn Taymiyyah. Or, ce salon, yani hada, dans lequel on est, il ne peut pas prendre plus de 100 personnes. 100. Si on va arriver à 100, yani, personne ne peut rentrer. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, on n'est que 75. Donc, je continue comme ça, parce que sinon, si on va ouvrir l'autre, il va y avoir le décalage dans les mains levées. Non, celui qui est en haut, il va se trouver en bas, celui qui est en bas, il va se trouver en haut, et comme ça. Donc on continue, inchallah, je me suis trompé, je devais ouvrir l'autre, j'ai ouvert celui-là. Non. On va continuer, si on arrive à 100, je suis obligé de fermer, d'ouvrir l'autre. Non, bien avec l'enfer, répète la question, et qui a répudié? Qui a la sorcellerie? Celui qui a répudié, ou bien la femme qui a la sorcellerie? Le mari, hein? Non, répète la question, Inch'Allah.
Non, cher, c'est le mari. Donc, je répète la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je voulais savoir quel est l'avis sur le fait d'avoir répudié sa femme, alors que cette personne se trouve malade. Sihr et djinn, qu'Allah Azza wa Jal le guérisse. Amin. Est-ce que le fait d'avoir répudié compte, ou il n'est pas compté, vu que la personne ne se trouve pas dans son état normal? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Tout le monde sait que, non, pour que le divorce soit valide, il faudrait que la personne soit consciente. Il faudrait que la personne soit consciente. Maintenant, yani, quel est le délit que cette personne, quand elle a dit cette phrase, yani, était consciente ou elle n'était pas consciente? La base, c'est de dire qu'elle était consciente. Sauf s'il y a un délit que, lorsqu'elle a dit ça, elle n'était pas consciente. Maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on attend que la personne, yani, soit consciente et lucide. Et là-bas, on va lui dire, tu as, voilà ce que tu as fait hier. S'il dit, non, je le sais, et je maintiens ça, elle est divorcée. S'il dit non, je savais pas ce que je disais, etc. C'est pas moi qui parlais, c'est le djinn qui parlait. Dans ce cas, le divorce n'a pas lieu, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Car il n'y a pas de divorce sans volonté de divorcer. Allah Azza wa Jal alam, tfadl.
Non, donc c'est la question de Sana. Salamu alaykum wa rahmatullah, Cheikh. Une sœur souhaite savoir. Pouvez-vous nous donner les avis sur le fait de toucher le mashaf en état de menstrue, car elle a appris aujourd'hui que tous les savants étaient unanimes sur le fait qu'on n'a pas le droit de le toucher, alors qu'on lui a enseigné qu'elle pouvait le lire et le toucher pendant cette période. Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Quant à ce qu'elle a dit, ou à ce qu'on lui a dit, que tous les savants étaient unanimes pour dire qu'elle ne devait pas le toucher, hein? Moi je veux dire qu'ils ne sont pas unanimes. Si elle avait dit que la plupart des savants ne permettent pas cette chose, on aurait dit d'accord. Mais de là à dire que tous, ils sont unanimes pour dire cette chose, non. Voilà l'un des plus grands savants, l'un des grands savants qui s'appelle Ibn Hazm, qui dit qu'il est permis qu'elle le touche. Non. Il dit qu'il est permis qu'elle le touche. Et si je ne me trompe pas, aussi Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Adoui, rahmatullah. Et Mouhim. Maintenant, reste à savoir quel est l'avis le plus sûr, bi'idhnillah ta'ala. L'avis le plus sûr, et comme j'ai dit, c'est celui de la plupart des savants, c'est qu'une femme en menstrue, n'am, ne touche pas le Coran, mais lit, c'est-à-dire peut le lire, mais ne pas le toucher. C'est comme si elle le lisait, par exemple, sur le micro. Elle ouvre le PC, et elle cherche où il y a le Coran, et elle clique avec la souris, elle tourne les pages. Ou bien, comme a dit Cheikh Ben Baz, elle met des gants. Ou bien, comme disent d'autres, elle demande à quelqu'un de lui faire tourner les pages. Et elle regarde seulement avec ses yeux et elle lit. Ou avec un stylo, ou avec n'importe quoi, elle tourne les pages. Pas avec sa main. Non, c'est l'avis de, Inch'Allah Ta'ala, Cheikh Ben Baz, comme je vous dis, et d'autres. Allah Azza wa Jal alam. Non. Très bien.
Abou Souleymane, est-ce que tu es là? Non, t'fadal, Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais ça, Cheikh? Non. Pour ma question, c'est pour. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a dit quand on souhaitait se marier, donc on allait regarder ce qui nous insistait à nous marier. Donc si on veut regarder la personne en question, donc Cheikh, comment s'y prendre, yani? Est-ce qu'on doit demander l'autorisation au mahram, ou est-ce que on doit voir la personne dans la rue, et yani, on a le droit de regarder son visage et ses mains jusqu'à qu'on soit yani, satisfait? Voilà, c'est ma question. Je sais comment l'akhiran, Cheikh. Wa shafakum Allah, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour quelqu'un qui veut se marier, pour la vision de la prétendante, non, il y a deux sortes de visions. Il y a la vision officielle, c'est quand il veut la voir devant son mahram, devant son tuteur, devant son père, son oncle, son frère. Non, il l'invite à la maison et il la lui fait voir, parce qu'il veut se marier avec elle s'il y a affinité. Et en même temps, elle le voit aussi, pour voir si on accepte de lui ou on n'accepte pas. Ça, c'est la première vision. La deuxième, qui est permise aussi, hein, c'est de la voir yani, en cachette. C'est de la voir en cachette, c'est-à-dire sans qu'elle sache elle aussi, sans qu'elle sache. Par exemple, elle me dit qu'elle travaille dans telle boutique, par exemple, hein, et elle l'a décrit, et je vais là-bas, je fais semblant d'acheter, et maintenant je vois. Je vois comment qu'elle est. Non. Et là, il y a des hadiths, bien sûr, de certains compagnons qui se cachaient derrière un arbre ou bien sur la terrasse pour voir non, la femme avec laquelle ils voulaient se marier. Et dans ce deuxième cas, c'est-à-dire la vision en cachette, dans ce cas, les savants ont dit, il est même permis de voir plus qu'il ne permet. C'est-à-dire, pas seulement de voir le visage et les mains, mais de voir plus, s'il pouvait. S'il pouvait voir plus, et en voit plus. Ils ont dit, c'est à condition que ce soit avec la niya du mariage. Avec la niya du mariage. Allah Azza wa Jalla.
Donc c'est la question de Bint Abdullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. À vous et votre famille. Et la bastahol, inshallah. Une sœur demande, j'étudie et je suis dans l'obligation de retirer mon voile au sein de l'établissement où j'étudie. De plus, je ne peux pas faire mes prières. Si je récupérais toutes mes prières en fin de journée, mes prières sont-elles acceptées ou est-ce que le fait de les rattraper ne sert à rien? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Pour le fait de retirer le voile à cause des études, il faut dire que franchement, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider et de vous faire une solution et de raffermir vos cœurs afin que vous ou bien vos parents fassent la hijra
et comme ça vous vous trouviez dans un pays musulman où on ne demande pas de retirer le voile. Quant à la deuxième chose, attendez, je me rappelle c'est quoi la deuxième. Non, quant à grouper aussi les salates, non, le soir, il faut dire aussi que c'est quelque chose de vraiment, et à nier, comment on dit ça en français, et de vraiment, on cherche le mot, disons de vraiment grave, de détestable et grave, l'âme, de ne pas faire les prières jusqu'au soir. Mais comme la personne dit, est-ce que le fait, puisqu'elles ne vont pas compter, alors je les laisse carrément, je dis non, ne les laisse pas carrément. C'est-à-dire, les faire le soir, c'est mieux que ne pas les faire. Mais les faire le soir, c'est vraiment aussi grave. Non, c'est vraiment grave. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, quand il a parlé de la salade dans le Coran, non, il a montré toutes les situations. Il a dit que on pouvait la faire debout, assis, en marchant, en montant sur la monture, dans la voiture. Non. Et on ne dit pas, je fais la salade ce soir ou bien je vais la faire demain. C'est pour ça que, non. Je disais, non, c'est tellement important que la personne doit faire tout son possible pour faire la salate. Alors, yani, même si elle l'a fait yani, debout, même si elle l'a fait yani, assise sur une table, même si elle l'a fait dans la salle de bain, même si elle l'a fait, yani, on doit trouver comment faire. Non. Ou alors, yani, c'est vraiment, elle est coincée, au moins qu'elle groupe. Au moins qu'elle groupe, au Zohar avec l'Asr, et le Maghreb avec l'Isha. Mais ce n'est pas, elle vient le soir, et elle fait tout. Zohar, Asr, Maghreb, Isha, ça se fait pas. Non. Allah Azza wa Jalla, que Allah Azza wa Jalla vous aide. Tfadhal.
Non, donc la question du Akh Mohamed 64. Salam alaikum wa rahmatullah. Un agent d'entretien a trouvé un Coran à moitié brûlé dans le parking de l'aéroport. Il voudrait savoir que doit-il en faire. Barakallahu fikoum. Tfadha chef.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, il continue à le brûler. Non, il continue à le brûler. Maintenant, il est libre s'il veut le laisser chez lui. À moitié brûlé, il le laisse chez lui. Il le cache ou là. Bien sûr, il peut. Mais s'il veut, non, il continue à le brûler entièrement, non, comme a fait Osman Mouafan, radiallahu ta'ala, quand il a brûlé les autres masahif, et comme a fait Ka'b ibn Malik, lorsque le roi lui a envoyé une lettre où c'était écrit Bismillah Rahman Rahim Sira, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a brûlé dans le feu. Donc, Inch'Allah ta'ala, il a le choix entre les deux choses. Ou bien il le laisse comme ça, à moitié brûlé chez lui, et il le cache, hein, ou bien il continue à le brûler complètement, et Inch'Allah ta'ala, yani, il aura fait comme a fait Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Tfadhal.
Non, donc là c'est autour de Insani. Allahu a'lam, le frère n'est pas francophone. D'après mes souvenirs, il réside aux États-Unis. Il est d'origine palestinienne, Allahu a'lam. Donc, cher, si vous pouviez directement lui parler en arabe, il comprendra peut-être directement. Tfada, cher. Cher, vous êtes là, Inch'Allah? Parce qu'en fait, le frère, il m'a écrit en arabe en privé, mais moi, j'ai pas l'arabe sur le PC. Et ça fait longtemps que je l'avais pas installé. Donc, je vois que des symboles. Juste parlez-lui en arabe pour savoir s'il est là. S'il n'est pas là, Inch'Allah, on passe directement à la question suivante. Inch'Allah. Insani. Je lui ai enlevé le raid. Tfadashir.
Ibn Sami, Inch'Allah ta'ala, idha kunta ma'ana wa lam tatakallam yani bil lughati al-fransiyya, tafadhal bil lughati al-arabiyya. نعم تفضل ان شاء الله حياك الله خذ الناقد
خير ان شاء الله نتبقى الله اعلم donc on va passer à la question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah cheikh. Une sœur demande un conseil. Sa mère serait confiée à elle en insinuant qu'elle aurait commis l'adultère étant jeune. sans préciser l'acte exactement. Sa mère regrette beaucoup, elle a fait tawba, alhamdulillah, mais désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La sœur, ne sachant pas, trouver les mots pour la conseiller, pouvez-vous lui dire comment parler à sa mère? De plus, sa mère se demande si elle devra en parler à son mari pour lui demander pardon ou bien ne rien dire, ce secret entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Salam alaykum. Tfadal cheikh.
Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, elle devrait réconforter sa mère. Yani en lui citant par exemple les hadiths ou bien les versets. Naam, par exemple le verset qui dit dans sourate Al-Furqan, sourate Al-Nur, si je ne me trompe pas. Ou bien Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc, elle peut citer le verset où Allah Ta'ala dit que ceux qui ont fait l'adultère, entre autres, que s'ils font la tawba, Allah Ta'ala non seulement le pardonne, mais encore, il va leur transformer, yani, ce qu'ils ont fait de mal en bien. Et elle peut lui citer le hadith de la au temps de Ben Israël, au temps des enfants d'Israël, comment on dit ça? La prostituée, qui vivait prostitution et qui a donné à boire à un chien. Pas à un homme, pas à un être humain, pas à un musulman. Elle a donné à un chien, un sale chien, et lui a donné à boire. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Tout ce qu'elle faisait comme haram. Donc, et si elle ne connaît pas des choses pareilles, elle lui dit en général qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, c'est le tout miséricordieux, et qu'il y a un hadith qui dit que la tawba yani détruit ce qu'il y a eu avant elle. La tawba, la vraie, détruit naam, ce qu'on a fait et annule ce qu'on a fait avant la tawba, annule tous les péchés. Et je lui conseille vivement à cette femme qu'elle ne dise pas à son mari ce qu'elle a fait dans le passé. Car c'est une chose entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, et son mari n'a rien à voir dans cette chose. Pire encore, si elle lui dit, il se peut que les choses qu'ils disent, moi je savais pas, et si je savais, je t'aurais pas épousé, j'aurais épousé une autre, et ça va entrer dans les problèmes. Il vaut mieux qu'elle laisse cela entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, et l'essentiel, c'est qu'elle a fait la tawba, et la tawba annule نعم سكون ما في أبونتال والله عز وجل أعلم تفضل.
نعم شيخ حفظكم الله. Le frère il a écrit en arabe. Bin Allah عز وجل, si vous avez l'arabe, inshallah, si vous pouvez lire directement. تفضل شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن سامي أنت موجود إن شاء الله تعالى, هل تسمعوني ابن سامي؟ اكتب نعم فقط. تسمعوني؟ الحمد لله. فيما يخص التأمين, يعني في فتاوى كثيرة لكبار العلماء يذهبون فيها إلى المنع وإلى التحريم. نعم, لماذا؟ عفوا, لأنه يدخل في ماذا؟ في القمار والغرر. لأنك أنت تدفع يعني قسطا من المال, ثم لعله لا يرجع أصلا أو يرجع أضعاف مضاعفة, فهو من هذا الباب يشبه القمار. ولهذا اتفقوا على ماذا؟ على منعه إلا في الضرورة، إلا في ضرورة عفوا، كما ذاك تأمين السيارات مثلا، تأمين السيارة، إنسان إذا اشترى سيارة لابد من تأمينها، وإلا يعني ربما قد يدخل السجن. آمين، بارك الله فيك. حتى تأمين السيارة يكون على الأدنى، ما يروحش يأمن يعني كل شيء، كل شيء في السيارة، إنما يأمن يعني الأدنى فقط الذي به يستطيع أن يعني يسير بسيارته. Donc les frères parlaient de poser la question sur comment ça s'appelle t'amin en français, attendez, l'assurance. Non? Et je lui ai dit que yani, l'assurance, elle est interdite en général. Et qu'il n'est permis de l'assurance que ce qui est permis. C'est-à-dire par exemple que la darura, que vraiment lorsqu'on est dans le besoin. Sinon, yani, quelqu'un ne peut pas lui-même aller, yani, il va dire je vais m'assurer à vie, ou bien je vais assurer ma maison, ou bien je vais assurer. Il ne peut pas faire cela, mais il va à Zawj. Très bien, suivant.
Madame Cher, juste pour revenir sur la réponse précédente, Inch'Allah, sur la femme qui a fait l'adultère. En fait, la sœur demande, Inch'Allah, lorsqu'elle a fait l'adultère, donc elle était déjà mariée avec l'homme qu'elle vit actuellement, c'est-à-dire son mari actuel. À l'époque, elle était déjà mariée avec, et donc vous lui avez dit qu'elle ne devait pas parler de son passé à son mari. Donc la sœur, en fait, il y a une petite ambiguïté parce qu'elle se dit que c'était pas un passé qu'elle avait avant de se marier avec. En fait, ils étaient déjà en couple au moment d'avoir fait ce péché. Donc elle demande, étant donné qu'ils étaient déjà ensemble, est-ce qu'elle doit lui parler ? Fadal Cheikh.
De toute façon, moi, quand j'ai répondu, je croyais qu'elle avait fait cette chose yani, avant de se marier avec cette personne. C'est pour ça que j'ai répondu comme ça. Non. Maintenant, quand une personne fait yani, cette chose tout en étant mariée, non, franchement, yani, ça devient vraiment grave. Non, ça devient vraiment grave, car en islam, non, car en islam, premièrement, quand elle fait cette chose, non, premièrement, comme vous savez, yani, on doit attendre, yani, c'est-à-dire que peut-être qu'elle est enceinte de celui avec lequel elle a fait la zina. Non, et vous connaissez le hadith qui dit que yani, il est interdit de faire mélanger du liquide. Il est interdit de faire mélanger du liquide. Non. Et c'est pour cela que lorsque le mari sait ce qui s'est passé, hein, il aura le choix entre yani, la divorcer, la répudier, ou bien de, par exemple, d'accepter sa tawba, hein, et de ne pas la répudier, de continuer avec elle. Mais de toute façon, une femme qui fait yani, une chose comme ça, yani, il faut dire que yani, la confiance vraiment yani, elle faiblit. Non. Parce que si elle fait une fois, elle peut faire deux fois et trois fois. Et comme ça. Donc, mais la sœur précise quoi? Qu'elle ne connaît pas l'acte exactement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'acte? Faites un plein micro, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'acte.
Mais moi, de ce que je comprends, c'est que, à mon avis, la sœur ne sait pas s'il y a eu exactement l'acte en tant que tel. Mawalem, elle dit peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais pas l'acte. Est-ce que c'est ça? Elle veut pas que je cite le nom, donc Inch'Allah, elle m'entend. Non, donc elle dit que c'est ça. En fait, elle ne sait pas s'ils ont fait l'acte, ou alors s'ils ont fait juste des choses en dehors de l'acte, en tant que tel. Fadal Cheikh.
De toute façon, si elle ne sait pas, c'est pas la peine qu'elle rentre dans les détails. Commence pas à chercher, à fouiller. L'autre, elle a dit qu'elle regrette, qu'elle a fait la tawba, etc. Que ça s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. Que ça s'arrête là.
elle a fait la tawba, elle regrette, elle a pleuré, ceci, cela, c'est le shaitan. Maintenant, c'est pas la peine de fouiller, d'aller lui dire qu'est-ce que tu as fait exactement, etc. Ça va être là, inshallah ta'ala. Il demande à Allah ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il nous pardonne, et qu'il nous pardonne à tous, et qu'il nous pardonne à tous. Tafadhal.
Donc, c'est la question de Nidal 974. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Vous m'avez manqué. Qu'Allah vous accorde une pleine santé ainsi qu'un beau destin ici-bas et un beau destin dans l'au-delà. Ma question porte sur la nuit du destin. Je sais qu'il est recommandé de la chercher dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Pendant ces 10 dernières nuits, est-ce qu'il est permis de faire la prière de Tarawih avec l'intention de prier la nuit du destin, étant donné que celui qui termine la prière de Tarawih avec l'imam est comme celui qui a prié toute la nuit, ou doit-on faire la prière de Tarawih avec l'imam et continuer la prière à la maison avec l'intention de prier la nuit du destin? Barakallahu fikoum ya Cheikh, qu'Allah vous accorde le succès à vous, à votre famille et à vos descendants. Amin. Tfadal Cheikh.
Pour vos doigts. Le mieux, c'est comme j'ai dit une fois, je le dis toujours, c'est de rester avec l'imam. Rester avec l'imam jusqu'à faire le 8 avec lui. Car Allah Ta'ala te donnera, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Ensuite, la nuit du destin, il faut la chercher dans les 10 derniers jours, dans les jours impairs. Et il y a un hadith authentique d'un certain compagnon que, Inch'Allah Ta'ala, c'est le 27. C'est le 27e jour d'après la vie le plus juste de Ibn Azzawajal, parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a un hadith clair là-bas. Mais Inch'Allah, avant que la nuit du destin arrive, dans la nuit du Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'elle, Inch'Allah Ta'ala, en détail, si je n'oublie pas, d'Ibn Azzawajal. Ensuite, c'est la nuit du destin, qui dit à cette personne que, quand elle fait la prière avec l'imam, elle revient chez elle le 27, le 27e jour la nuit, ce n'est pas seulement la prière. Elle peut lire le Coran, elle peut faire des du'as, elle peut faire du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, écouter un dars, et comme ça, être dans une obéissance, et pas obligatoirement, être dans une prière. Et les obéissances, il y en a beaucoup, masha'Allah.
Donc c'est la question de Zahira. Assalamu alaikum Cheikh, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Amin. Je vais suivre des cours de Tajwid, Inch'Allah, mais le problème c'est que ces cours se passeront chez une personne faisant partie de Jama'at al-Tablir. Ai-je le droit d'assister à ces cours, sachant que ce sont les seuls cours de Tajwid donnés dans ma ville? Barakallahu fikoum Cheikh. Tfadal Cheikh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, il faudrait savoir, Inch'Allah ta'ala, que le tajwid n'est pas une science obligatoire. Non, le tajwid, c'est l'essentiel. Si je sais comment je fais le tajwid de surat al-Fatiha et une surat après elle, je me suis suffi de Ibn Azzawajal. Le plus important, c'est d'apprendre par exemple sa aqida, d'apprendre le fiqh, d'apprendre ceci. Maintenant, les savants disent que si on va demander de la science chez quelqu'un de la bida, ça peut faire quoi? Ça peut lui faire entrer dans son cœur que, c'est-à-dire on va ajouter le nombre, on va multiplier le nombre. Toi tu vas y aller, l'autre il va aller, qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver avec, mashallah, des gens, et on va lui faire croire qu'il est quelqu'un qui est mashallah, qu'il y a des gens qui viennent de lui, venus de tous les coins. Et deuxièmement, si on va chez quelqu'un de la bida à demander la science, ça va le réconforter dans son erreur. Et autre chose aussi, quoi, c'est que les gens, quand ils vont te voir, toi ma soeur, là, toi, mon frère, allez chez lui, ils vont dire, quand même, cette personne, je la connais, c'est une salafia, et elle va chez lui. Donc, il n'y a pas de problème à côtoyer des gens de la bid'a. Pas de problème. Regarde, une Zahira, c'est une salafia, machallah, elle va chez elle.
Toi, tu connais mieux qu'elle. Donc, tu vas induire les gens en erreur. Tu vas induire les gens en erreur. Surtout comme on vient de dire que le tajwid, ma'am, ce n'est pas la aqida. Si c'était seulement, si c'était vraiment quelque chose de très important comme la aqida, et il n'y avait personne que cette personne, plus ou moins. Mais pour des choses comme ça qui ne sont pas obligatoires, il vaut mieux ne pas y aller, inshallah ta'ala. Na'am, tafadhal.
Donc c'est la question de Zainab 43. Assalamu alaikum, cher. Ma question concerne le mariage. Les parents d'une sœur sont nationalistes. Et ma question est la suivante. Pouvez-vous informer et conseiller, entre parenthèses, en arabe, cher Darija, de préférence, les parents qui refusent de marier leurs enfants à cause de la nationalité alors que le prétendant est dans le minhaj. Barakallahu fikoum, cher. Salam alaikum. Par contre, Zainab, Inch'Allah, précisez si les parents de la personne concernée, est-ce qu'ils écoutent, ou ça va être enregistré et ensuite diffusé, pour savoir si Cheikh leur parle directement. Toi, Dalchir. Zainab, Inch'Allah, en Algérie, Inch'Allah. Ouais, de toute façon, c'est compréhensible, Allah Alam. Même si c'est en Algérien, Cheikh. Les Marocains comprendront, Inch'Allah. Donc Zainab répond comme il veut, tant qu'on comprend, qu'il le fasse en arabe littéraire. Et elle dit également que les parents ne sont pas présents actuellement, mais que la personne va enregistrer, Inch'Allah, et leur diffuser. Tafadhal, cher.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Ana ansah. أنصح دائما الأبوين نعم أن يتقوا الله سبحانه عز وجل وأن يسهلوا الزواج لبناتهم وأن لا يضيقوا كثيرا باختيار وباشتراط أمور لم ينزل بها الله عز وجل من سلطان ولهذا كما مثلا بعضهم يقول لابد أن يكون هذا الخاطب مثلا من نفس الجنسية أو يكون من نفس البلد أو أن يكون لونه مثلا كذا وكذا فهذا كله يعرقل في الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا الرسول أصلا مش يقول إذا جاءكم إذا جاء واحد يخطب منكم نعم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه والإنسان جاء يخطب عنده الدين إنسان تاع دين مدين وعنده أخلاق قل زوجوه إن دم الزوج لهش راه راح تولي مشكلة كبيرة في المجتمع ثم بنتك المهم أنها تزوجت مع إنسان مدين وتزوجت مع إنسان عنده أخلاق وتزوجت مع إنسان هي حبت تزوج به لأن هي اللي راح تعيش معه ماشي الأب ولا الأم تاعها اللي راح يعيشوا معه ولهذا ما يهمش ما يشترطش بلي لازم يكون السيف جزائري ولا بالسيف لازم يكون مروكي ولا لازم يكون تونسي ولا هذا كله ما يهمش المهم أنه يوافقها في الدين ووافقها في الأخلاق وإنسان لبس به هذا هو المهم إن شاء الله تعالى في الزواج والزواج هذا أنتم تجعلوه طاعة لله عز وجل لأن البنت هذه راهي عندكم أمانة أمانة خلاها عندكم الله سبحانه وتعالى وطلب منكم بشواش باش تزوجوها كما حبوها الله عز وجل مش كما تحبوا أنتم لأن يوم القيامة راح تتسألوا عليها تسألوا علاش زوجتها مع واحد تكره غير على جنب مثلا من الجنسية تاعكم فأنا ننصحكم إن شاء الله تعالى باش إذا جاكم الخاطب فيه الشروط نعم مدين وعنده أخلاق فزوجوه بإذن الله عز وجل رب سبحانه يبارك لكم في هذا الزواج نعم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
بارك الله فيكم شيخ دوك باس على كيسيون دو Minhaj Salafi Sahih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur convertie voudrait partir étudier dans un pays musulman. Elle a choisi un tuteur musulman qui n'a aucun lien de sang avec elle. Est-elle autorisée à partir si ce tuteur l'accompagne là-bas et reviendra la chercher? Le frère ne reste pas avec elle là-bas. Il la déposera avec cette sœur, sa femme. Il la déposera avec sa femme et ses enfants, Inch'Allah. Est-il permis, Allah et Shafikoum, Cheikh, Jazakumullahu khayran, Cheikh. J'ai pas entendu le début. Non, mais je répète, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur convertie voudrait partir étudier dans un pays musulman. Elle a choisi un tuteur musulman qui n'a aucun lien de sang avec elle. Est-elle autorisée à partir si ce tuteur l'accompagne là-bas et revient la chercher? Le frère ne reste pas avec elle là-bas, il la déposera avec sa femme et ses enfants. Inch'Allah. Est-ce que cela est permis? Allah et Shafikoum, Jazakumullahu khayran, Cheikh. Tfadal, Cheikh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne faut pas confondre, hein, il ne faut pas confondre avec tuteur et mahram. Tuteur et mahram. Cette reconvertie, quand elle veut se marier à fond, elle va prendre un tuteur et non pas un mahram. Elle va prendre quelqu'un qui va la marier, c'est tout. Mais il n'est pas son mahram au point où il peut la faire voyager, ou bien il peut rester tête à tête avec elle, ou bien il peut la voir sans voile, ou bien il peut lui toucher sa main, ou bien tout ça il ne peut pas. Donc on ne doit pas confondre entre tuteur qui peut la marier et mahram. Mahram, c'est quelqu'un qui est son oncle, qui est son père, qui est son frère, qui est son fils. Voilà le mahram. Non. Donc celui-là, il ne peut pas voyager avec elle. Parce que, comme je viens de dire, ce n'est pas son mahram, mais c'est seulement son tuteur. C'est son wadi. Non. C'est son wadi. Et elle peut voyager sans wadi, Inch'Allah ta'ala, sans mahram, si c'est pour la hijra. Comme c'est dans le verset, comme l'ont permis certains savants. Seulement pour la hijra. Sinon, elle ne peut pas bidna azajun tant qu'il n'y a pas vraiment une nécessité. Vraiment, vraiment une nécessité. Elle va mourir si elle ne fait pas ce voyage, elle va ceci, elle va cela. Non.
Cher, elle demande, est-ce que si la femme du frère est présente, est-ce qu'elle peut voyager ou pas? Étant donné qu'ils ne seront pas uniquement à deux. Il y aura la femme et les enfants du frère. Tfadal Cheikh.
Non, le frère et sa femme sont des étrangers par rapport à elle. Le frère et la femme sont des étrangers. Ce frère, c'est un étranger. C'est seulement un tuteur qui peut la marier. Mais c'est un étranger. C'est comme si elle allait voyager avec son voisin et sa femme. Avec son voisin et sa femme. Or, ceux qui ont permis à la femme de voyager avec des gens étrangers, s'il y a la sécurité, comme vous savez, c'est, il y en a un avis, mais vraiment, c'est pas l'avis de la plupart des savants. C'est un avis de certains savants qui ont dit que la femme pouvait voyager avec, il y en a des gens sécurisés, avec des gens s'il y a la sécurité. C'est l'avis, comme je vous l'ai cité une fois, de certains savants. Mais la plupart disent qu'elle ne peut pas. C'est pour ça que je laisse le deuxième avis pour les cas de nécessité. Pour les cas de nécessité, je dirais au moins, il y a un avis qui dit que s'il y a la sécurité, elle peut. Et puisqu'elle est dans la nécessité, elle peut. Mais je ne dis pas comme ça, Yannick, à tout le monde qu'il peut voyager. Mais je lui dis que l'avis de la plupart des savants, c'est qu'elle ne peut pas voyager même dans un groupe sécurisé.
Non, donc la question de Bismillah 25. Salam alaikum. Comment faire pour que notre ancien mari, sur le point d'épouser une autre sœur, nous re-aime et nous réépouse? Une sœur aime beaucoup son ancien mari, elle le reveut. Que doit-elle faire? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. En fait, cher, la sœur est divorcée. Et elle a appris que son ancien mari va se remarier avec une sœur. Et cette sœur, il s'avère qu'elle, qu'elle aime son ancien mari. Et elle voudrait savoir comment elle doit faire pour que son ancien mari ressente des sentiments pour elle, pour qu'elle rééprouve de l'amour pour elle, afin de la réépouser. Elle veut en fait que son ancien mari redevienne son mari. Elle demande comment faire. Tfadal Cheikh.
Si elle sait que son mari, mais lui, il a l'intention de se marier avec une autre femme. Si elle sait que son mari a déjà demandé la main d'une sœur, bien sûr, elle n'a plus le droit. Elle n'a plus le droit. Non. Parce que c'est comme l'homme qui n'a plus le droit de demander la main d'une femme s'il sait qu'il y a un autre frère qui la demande. Mais si elle sait que maintenant, par exemple, il ne va pas se marier, il n'a aucune dans la tête, alors dans ce cas, elle peut lui renvoyer avec quelqu'un. Elle lui renvoie avec son frère ou avec son père. Avec quelqu'un qu'il connaît. Il lui dit que, par exemple, elle, son épouse femme, hein, voudrait, par exemple, que Yanni, tu la redemandes. Non, c'est permis. C'est permis qu'un homme dise, par exemple, à un autre, je te propose ma fille. Et je te propose ma soeur. Hein? Comme a dit cet homme dans le Coran, Moussa alayhi salam, Urido en unkihaka, ihda bnatayya hatayn. Et comme a fait Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, quand il a proposé sa fille Hafsa à Abu Bakr Siddiq, ensuite il l'a proposé à Othman ibn Affan. Donc c'est possible en islam que quelqu'un propose la femme, qu'il dise je te propose ma fille, je te propose ma soeur, et comme ça. Et elle peut venir justement, c'est à cela que je voulais venir. Maintenant, s'il s'est déjà marié avec une femme, ou là, il veut déjà une femme, elle peut se proposer une deuxième femme. Elle peut se proposer une deuxième femme, puisque l'homme a le droit de se marier avec quatre. Ensuite, c'est à lui de voir s'il l'accepte ou s'il n'accepte pas. Allah Azza wa Jalla alim très bien.
Abou Salman, tfadal inshallah. Tfadal, prends le micro inshallah.
Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a du son? Cher, je vous souhaite inshallah un bon début de Ramadan avant tout. Et qu'inshallah, un bon rétablissement au niveau de votre santé. Inshallah, je passe à la question. Je vais essayer d'être le plus précis, cher. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais je vais être le plus précis inshallah. La question concerne le commerce. Alors en fait, je voulais savoir, Achir, est-ce qu'il est permis pour certaines personnes qui commercent d'aller dans des pays étrangers, matériels comme la Chine, pour y acheter certaines choses de valeur qui peut revendre comme des vêtements, d'électronique. Et ce que je voulais savoir à propos de ça, surtout au niveau des vêtements, par exemple, si le frère il achète des vêtements de marque, qui portent des noms de marques qui sont connus comme Adidas ou autres marques, est-ce qu'il lui est permis d'en acheter et de revendre en France? Parce qu'en fait, le problème que je me pose, je ne sais pas si ce sont des imitations, ce sont des contrefaçons ou pas, ou si c'est des vêtements où le frère a le droit d'acheter et de revendre. Est-ce que vous m'avez compris, Inch'Allah, déjà dans cette première partie? Je vous laisse le micro, Inch'Allah.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De toute façon, en ce qui concerne les marques, acheter des choses où il y a des marques, il faut voir si ces marques yani sont des marques yani qui ne représentent pas yani des sociétés connues pour, par exemple, yani la dawa au coffre, la dawa yani aux choses haram, etc. Une marque normale, par exemple, si c'est écrit, par exemple, je ne sais pas, Rome ou Kada, quelque chose qui représente seulement la société. Car il y a des marques, même, qui sont comme Nike, etc., qui sont vraiment haram. Car ça représente des déesses, etc. Ensuite, quand tu dis, je ne sais pas si c'est de la contrefaçon ou pas, là, il faudrait le savoir. Parce que si c'est la contrefaçon, ça devient haram. Parce qu'on a pris, quoi? On a pris, yani, la chose, yani, d'une société,
et on a fait la même chose en faux. C'est ça la contrefaçon. L'autre, il a Adidas, et moi, je vais quoi? Je vais faire quelque chose qui lui ressemble et écrire dessus Adidas. Non, ça veut dire la contrefaçon, le copier sans demander de droit. C'est pour ça que tu devrais chercher que la chose que tu vas acheter, non, est-ce que non, c'est une contrefaçon ou est-ce quelque chose d'origine? Fadal.
Barakallahu fik, cher, pour ces informations. Maintenant, cher Matalan, est-ce que si j'achète chez un frère qui vend des vêtements, mais je ne sais pas leur provenance, c'est-à-dire je ne lui demande pas d'où tu les as achetés, à part si j'ai une forte présomption de savoir si c'est de la contrefaçon ou pas, c'est-à-dire si c'est mal fait ou pas. Mais si à ce niveau-là, je ne sais pas d'où ils viennent ou d'où la provenance, est-ce que je peux lui acheter? Mais la question que je pourrais me poser à ce moment-là, c'est au niveau du prix. Si le prix, il est très bas par rapport au magasin, je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas, cher. Je vous laisse le micro par la clave.
Non, j'ai compris, Inch'Allah Ta'ala. D'un côté, tu cherches, est-ce que ce n'est pas obligé de demander d'où la provenance de cette marchandise? Et de l'autre, tu dis, mais le prix, il est peut-être un indicateur. En fait, c'est vrai, le prix, si c'est vraiment bas comme ça, ça veut dire tout simplement que c'est la contrefaçon. Il est impossible, par exemple, d'acheter, je ne sais pas, une paire d'Adidas, par exemple, de l'acheter avec 5 francs ou 10 francs, c'est pas possible, hein, si c'est vraiment Adidas. Maintenant, si ce n'est pas Adidas, c'est autre chose. C'est pour ça que, si tu vois que le prix est moyen, etc., ça va, alhamdoulilah. Mais si tu vois que le prix est vraiment bas, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en arabe karina. C'est un signe que ce que tu vas acheter, ce n'est pas le vrai. Mais c'est de la contrefaçon. Très bien.
Barakallahu fik, cher. Pour terminer, Inch'Allah, je remets, Inch'Allah, une nasiha pour que je puisse transmettre au frère, Barakallahu fik, pour l'informer de ce que vous avez dit comme réponse. L'argent qu'il a récolté à travers ces vêtements-là, ce commerce-là, qu'en est-il de cet argent-là? Et une nasiha pour nous tous, qui soit général. Parce que, cher, comme vous savez, le commerce est une grande porte. On peut tomber dans des choses illicites sans le savoir. Barakallahu fik, cher. Wa shafakallah, cher.
Non. Pour le commerce en général, je veux dire en général, non, pour le commerce en général, il faut dire que il n'y a pas quelqu'un qui soit rentré dans le commerce sans qu'il n'en soit sorti indemne. Non, c'est toujours il sort blessé ou là, il sort comme la poule qui vient de perdre ses plumes. Et comme ça, surtout de notre temps, Ensuite, il faut savoir que le commerce, si Yanné, il ne te fait pas beaucoup de choses de mal, ce qui peut te faire de mal, c'est de t'éloigner de la quête de la science. Normalement, un commerçant, s'il avait, je ne sais pas quoi, une super à tout là, n'importe quoi, il mettrait quelqu'un comme gérant, et lui, il le voit de temps en temps, etc., et il est là en train de demander la science et de lire, etc. Mais, de nos jours et années, c'est vraiment rare, ceux qui mettent comme ça quelqu'un comme gérant, etc., tout le monde voudrait que ça soit lui qui soit présent, pour qu'il soit sûr que rien ne soit parti à droite et à gauche, et là, bien sûr, ce qui va partir à droite et à gauche, c'est son din. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, il a dit « Inna tujjara hum al-fujjar illa ma rahim al-buk » Le hadith se trouve dans Sahih al-Jama. Il a dit « Les commerçants, ce sont tous des pervers. » Il a dit « Sauf ce que Allah Ta'ala a accepté. » Naam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de vous, que vous soyez des gens qu'il a acceptés. Naam. Sinon, comme je viens de dire, la personne, elle est masha'Allah, dès qu'elle rentre dans le commerce, elle change. Non, mais elle est une masha'Allah, elle est
akhlaq et ceci, cela, salat, alors, dès qu'elle rentre dans le commerce, elle n'a plus le temps. Et si c'est une personne sincère, elle-même, elle va te dire, oh Allah, j'ai faibli. Allah, je reconnais, je suis loin. Allah, je groupe les salates. Allah, je mens. Allah, je donne l'usure. Allah, ceci, Allah, cela. Non, si elle est sincère. Sinon, elle ne va pas le montrer, mais tout le monde sait que, il est très difficile de faire le commerce de notre temps. Mais des fois, comme vous savez, des fois, il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas où on peut travailler, il n'y a pas ceci. Dans ce cas, on doit essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et de ne pas faire de ce commerce, un moyen pour s'enrichir. Mais je fais de ce commerce un moyen pour vivre, c'est tout. C'est-à-dire, si je fais maintenant un commerce, j'ai, mashallah, je fais rentrer une somme assez importante, j'arrête jusqu'à ce que je la termine. J'achète ce qu'il faut, je mange avec, et j'arrête, mais je vais refaire le commerce. Mais ce n'est pas, je fais le commerce pour m'enrichir, pour devenir un millionnaire, pour devenir un milliardaire. Dans ce cas, Allah Ta'ala va enlever avec la bénédiction, et on va se trouver de l'autre côté, que Allah Ta'ala nous en préserve. Tfadlan, inshallah, le suivant.
Barakallahu fikoum, Cheikh. Je voulais juste rajouter un complément, inshallah, à ce que vous avez dit à propos des marques. Vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'il y a du son dans la room? À propos des marques. Les marques des vêtements, des choses qui sont à la mode, que les jeunes ils achètent, etc. En France et en Europe, il y a une marque que les jeunes ils doivent connaître, ou les frères et les sœurs ils doivent connaître, qui s'appelle RG512. Je l'ai écrit dans la room, RG512. Et moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes. Ils viennent à la mosquée, bon, alhamdoulilah, ils viennent faire salat taraweh, salat de l'jemoua, etc. Des jeunes, ils sont habillés avec ces vêtements à la mode, RG512. Mais la plupart, ils savent pas qu'est-ce que ça signifie RG512. Sachez qu'un avion, tous les avions, quand ils volent, ils ont un numéro de référence. Tous les avions, quand ils volent, ils ont un numéro de référence. Exemple, l'avion qui est tombé dans l'océan, qui est parti du Brésil, qui venait en France, c'est l'avion AF 414, par exemple. Eh ben, vous savez, c'est quoi l'avion qui s'appelait RG512? Écoutez bien, asseyez-vous et ouvrez vos oreilles. C'est le premier avion israélien qui a décollé pour bombarder la Palestine. En 1948, quand les Arabes ils ont fait la guerre contre les Juifs, pour pas qu'ils fassent leur état d'Israël, et ben les Juifs, le premier avion qu'ils ont eu, ils ont dit voilà, on a un avion, on va mettre des bombes dedans, on va voler les pays arabes, on va leur lancer des bombes. La référence de cet avion, c'était RG512. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque, et les musulmans, ils l'achètent. Subhanallah. Bon là, ça c'est terrible. Bon là, ça c'est terrible. A'oudou billah. Salam
alaikum. Donc la question suivante, Inch'Allah. La question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaikum. Doit-on dire Bismillah, A'ouzoubi, Kamina al-Khoubsi ou al-Khabaïs avant d'aller dans un lieu sale comme les toilettes, même si on ne fait pas les besoins? Et doit-on le dire dans un endroit sale, même si ce n'est pas les WC? Barakallahu fikum.
Alaykoum salam wa barakatuh. Naam, quand on rentre dans les toilettes, on doit dire cette chose, même si on ne rentre pas pour faire quelque chose. Car, en rentrant, il y a qui? Il y a les djinns et les djinnouettes, c'est leurs femmes, leurs enfants, ça, qui sont à l'intérieur. Le fait justement de rentrer sans dire cette chose, on peut recevoir un coup. Et on peut recevoir une gifle, on peut y recevoir n'importe quoi. Mais en disant cette phrase, alhamdoulilah, on les a bloqués. On les a bloqués et ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça que on doit dire aussi cette chose dans les endroits sales. Je veux dire par sale, ce n'est pas, par exemple, de la graisse, du mécanicien. En sale, c'est-à-dire la souillure. Il y a l'urine et la souillure. un endroit pareil, non? La plus belle. Les plus belles. Je ne pense pas les plus belles parce que on va pas marcher sur la poubelle. On arrive devant la poubelle, on jette et on part. Non. Mais c'est dans les endroits spécialement où il y a la souillure. Non. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ensuite, autre chose. Pour les cours pendant le Ramadan, inshallah ta'ala, il y aura samedi, lundi et mercredi. Samedi, lundi et mercredi. Il est possible maintenant, par exemple, que je vous dis samedi, lundi et mercredi, et que par exemple, lundi, que vous ne trouviez pas, ou que mercredi, vous ne trouviez pas. C'est possible. Pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, vous savez, des fois, on a des invités, des fois, moi-même, je suis invité, comme ça. C'est pour ça que il y a un problème de connexion, hein. C'est-à-dire que moi, dans mon intention, c'est que ce soit samedi, lundi et mercredi. Mais maintenant, si vous ne voyez pas au-delà, voilà, donc il y a quelque chose. Ensuite, autre chose, je voulais dire aussi. Non, pour le téléphone, les appels téléphoniques sur l'autre numéro qu'il y a sur le site, non, pendant le Ramadan, c'est la nuit. C'est le mardi, la nuit. Non, à partir, par exemple, de 23h en Algérie, de minuit chez vous. Non, la fois passée, la fois passée, j'avais oublié la puce, j'ai oublié de l'emmener avec moi, j'ai oublié de l'emmener avec moi pour la mettre. C'est pour ça que j'ai pas pu répondre au téléphone. Même les collègues belges sont en France, on cherchait à vous joindre. Non, mardi passé, j'avais oublié d'emmener avec moi la puce. Donc, Inch'Allah ta'ala, mardi prochain, à partir de 23h, Inch'Allah ta'ala, s'ils veulent nous téléphoner, bi'idhni azza wa jalla. Et comme je vous ai dit, les cours, Inch'Allah, samedi, lundi et mercredi. S'il n'y a pas lundi, il y a mercredi. S'il n'y a pas mercredi, il y a samedi. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala. Disons 23h à 1h. Disons 2h, bi'idhni azza wa jalla. Sur ce, Inch'Allah ta'ala, il est 2h du matin, 3h chez vous. Je dois m'arrêter, Inch'Allah ta'ala. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعلم الله ان شاء الله لا سي لا ريبون ان شاء الله تعالى pour باذن تعالى لاندي ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.